J'aimerais ce matin continuer, alors ça fait quelque temps qu'on a vu ça, mais par épisode comme ça, on le revoit. On va mettre sur l'écran une image que vous connaissez, puisque j'aimerais encore ce matin vous parler du tabernacle. Nous avons vu ensemble le parvis, il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez du parvis. Et on avait vu qu'il y avait comme une clôture, autour du parvis, d'une certaine hauteur où les gens ne pouvaient pas voir au-dessus. Et puis on avait vu que dans ce parvis, il y avait l'autel des sacrifices, des holocaustes. On avait vu aussi qu'après, il y avait l'autel où il y avait le bassin pour se purifier. Et nous avons vu après, ou avant même, on avait vu les différentes couches de toile qu'il y avait sur la tente de la rencontre. On avait vu aussi qu'il y avait dans cette tente de rencontre deux pièces, on peut ainsi dire. Il y avait la première partie où il y a le sacrificateur, souvent un sacrificateur que vous voyez le petit personnage là. Il va rentrer. Et donc il y avait l'autel des parfums. Il y avait l'autel des pains de proposition. Et puis, il y avait le candélabre, et non pas le chandelier, parce qu'en fait, souvent on l'appelle le chandelier, mais ce n'est pas le chandelier, les chandelles n'existaient pas à l'époque. Et ce matin, nous allons voir donc le troisième rideau. En fait, je tiens à rappeler que tout est symbolique. Rien n'a été fait ni dit au hasard. Tout nous parle de Christ. Et rien que de Christ. Et ce lieu, ce parvis, avec cette tente de la rencontre, avec tous les objets qui sont à l'intérieur, nous rapproche de Dieu et nous parle de Dieu. C'était une rencontre solennelle. Une fois que ce parvis, lorsqu'ils ont construit le temple, ce parvis n'existait plus, mais ils l'ont construit en dur, le temple de Jérusalem. Mais avant d'en arriver à cela, si un jour on en vient, il faut se rappeler que ce lieu était visité par Dieu. Ça représentait la présence de Dieu. Il y avait la Shekinah. Il y avait la présence de Dieu qui était marquée la nuit par une colonne de feu et le jour par une nuée. Et lorsque celle-ci se levait, c'était le signe pour les Hébreux, de lever le camp. Et ils pouvaient rester là pendant un jour, deux jours, plusieurs jours, quelques mois, quelques semaines, quelques mois, selon la volonté de Dieu. Et en fait, ça nous parle aussi que pour savoir que Dieu voulait le départ, ça nous interpelle en disant qu'il nous faut toujours avoir les yeux sur la parole, fixés sur Christ. Les braves qui étaient tout autour, en camp, qui étaient, c'était pareil, les tribus ne se mettaient pas les unes à côté des, enfin, ils se mettaient les unes à côté des autres, mais pas d'une manière aléatoire. Il y avait un code. Et les Hébreux regardaient chaque jour, le soir, la nuit, ils avaient leur regard fixé sur la Shekinah. La Shekinah nous parle du départ, de la présence de Dieu. Est-ce que nous avons notre regard fixé, frères et sœurs, sur la Shekinah, sur la présence de Dieu? Est-ce que tous les jours, nous avons un regard sur sa parole, un regard sur ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui? Ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui n'est pas forcément la même chose que ce que Dieu voulait hier et ce que Dieu voudra pour demain. Et ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu veut, pas simplement, mais c'est aussi être dans l'obéissance de ce que Dieu veut. Lorsque Dieu nous dit « lève le camp », alors je dois lever le camp. Même si des gens vous disent « non, reste, reste, reste », il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Je répète, il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça ne veut pas dire que vous auriez une malédiction, que Dieu viendrait vous maudire, que Dieu ne vous bénirait plus. Mais vous seriez inconfortablement installé parce que ça ne serait plus votre temps. Et le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Lorsque Dieu donne un temps, il sait pourquoi il le donne. Il n'est pas tenu de nous dire combien de temps ça va durer, d'une part, et pourquoi il faut lever le camp. Un jour, nous leverons tous le camp, soit par la mort, soit par un départ de l'Église pour aller ailleurs, soit que nous leverons le camp pour partir parce que le Seigneur viendra nous chercher. Et un jour, si le Seigneur tarde et qu'on ne meurt pas avant, un signal donné, nous lèverons tous le camp. C'est pour ça que souvent il m'est arrivé quelquefois de dire à nos amis, les gens du voyage, les gitans, je dis « moi je suis un gitan ». Alors ils ont commencé à me regarder un peu bizarrement en me disant « qu'est-ce qu'ils nous racontent ?» Je dis « nous sommes tous des gitans ». Parce que le symbole même du gitan, c'est les gens du voyage. Et nous sommes tous du voyage ici-bas. Parfois, des gens s'installent ici-bas pensant qu'ils resteront une éternité. Hier, il y a un brave, il parlait. Alors, il était interviewé. Quand je l'ai entendu, alors je ne sais plus, je n'ai plus les mots précis, mais il y en a un, c'est sûr. Il y a eu le pape qui est passé à Marseille. Alors, ils étaient tous contents que le pape passe. Et puis, il y en a un qui disait, comme ça, je ne sais plus en quel mot, il disait, oui, que Marseille soit connue dans le monde pour la vie et pour l'éternité. C'est l'éternité, c'est le mot éternité, ça m'a... Tiens, éternité pour Marseille. Mais nous, notre éternité, nous savons où nous la passerons à la condition que on continue à marcher avec le Seigneur. Exode 26, verset 31, on laisse cette image et je vous fais la lecture. Exode 26. Ah, les portables, alors ça, là, c'est... Non parce que c'est pas un problème, hein. Mais n'oubliez pas de mettre sur silence votre portable, parce que sinon on est angoissé, on est stressé, on dit que « Ah, c'est moi qui sonne, je ne sais plus », alors c'est un vent de panique. On dit « Non, ce n'est pas moi, ça, comme une patate chaude, vous savez. » Donc ce n'est pas un problème, ça arrive à tout le monde. Moi, le premier, ça pourrait m'arriver. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais pour vous dire, si vous avez un portable, mais n'oubliez pas de le mettre... Il y a des gens qui aimeraient avoir une information juste au moment où vous passez le culte. Et vous êtes gêné, après ça vous met la honte. Alors n'ayez pas honte, ça arrive à tout le monde, moi le premier, ça pourrait m'arriver. Mais dans mesure possible... Voilà. Exode 26, verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre, et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous, des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Voilà, c'est pas une indication, c'est une instruction, un commandement de la part de Dieu. D'après la tradition juive, on disait que l'épaisseur du rideau faisait la paume, d'après la juive, disait que l'épaisseur du rideau faisait la paume de la main. Donc c'était un tissu qui était brodé, qui était chargé, mais très épais. Alors, lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu saint, il voyait le candélabre, il voyait la table des pains de proposition, il voyait la table où on offrait l'encens, symbole de la prière, et il y avait ce rideau qui était en fait semblable aux autres, sauf, il y avait, eh bien, dessus les chérubins qui étaient artistement brodés. Les couleurs sont exactement les mêmes. Il y avait le premier rideau qui nous faisait, je répète, il y avait donc le parvis, avec toute cette clôture en toile, il y avait ce premier rideau. L'extérieur nous parle du monde. Lorsque l'on vient à l'Évangile, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on rentre par le premier rideau et c'est la révélation de Christ dans notre vie, pour notre vie, où on voit la première chose que le visiteur voyait, c'était en fait eh bien, l'autel des sacrifices, des holocaustes. Mes amis, ça devait sentir très mauvais. Ça vous choque peut-être, mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi. Ça devait avoir une odeur infecte. Peut-être qu'il y avait même des mouches. C'était sale. Il y avait des taches. Pourquoi? Parce qu'on y sacrifiait les animaux. Le sacrifice nous parle de la croix. Ce qui nous fait venir à la croix, c'est notre saleté, notre mauvaise odeur, notre odeur nauséabonde. Chez les uns, chez les autres, ça se sent plus que chez d'autres. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous mis au même rang. Quelqu'un me disait, là, pour faire un soin dans l'hôpital, me disait, il y avait une personne qui était là, mais d'une crasse, on ne savait pas si c'était le bronzage ou la crasse. Alors ça se voit chez certaines personnes. Chez d'autres, ils se sont pouponnés du parfum. Moi, le premier, ce matin, partout du parfum. Non, pas partout. Mais on se fait propre, on se rase, on se brosse les dents, vaut mieux, hein. Voilà, on se fait propre, voilà, enfin pas que le dimanche, j'espère pour vous, hein. Bon, enfin, voilà, on se fait propre dès le matin, voilà. Pas autant de temps que les dames, mais voilà, quoique, certains. Mais on se fait propre. Mais quoi qu'il en soit, même si on se poudre le visage, comme du temps de la cour de Louis XIV, parce qu'on avait peur que l'eau rentre dans les pores, eh bien on se poudrait, mais on ne se lavait pas, ou très peu. Ça calfeutrait, ça cachait, mais la misère était là. Lorsqu'on vient, lorsqu'on rentre dans le parvis, on y voit donc ce lieu de sacrifice. C'était un symbole, une image, pour nous parler de la croix. Et puis après, il y avait ce bassin. Ce bassin nous parle eh bien, de la purification. Je rappelle que lorsque les sacrificateurs, lorsque les lévites allaient se laver, ils avaient une image exceptionnelle et encore un symbole, vu que cette cuve d'airain qui était mise sur le dos de bœufs qui était façonné, enfin qui était modelé, qui était sculpté, il y avait cette cuve qui était faite avec le miroir des femmes. Et que voyaient-ils lorsqu'ils se penchaient sur l'eau? En fait, ils se voyaient tels qu'ils étaient, c'est-à-dire avec des taches de sang. Ça avait giclé. Lorsqu'on coupait une artère, ça saignait de partout. Et combien de fois le péché, on ne se rend pas forcément compte de notre saleté. Parfois, on nous le fait remarquer. Ça vous est arrivé de vous regarder en caméra? Oh, c'est pas possible, c'est pas moi! Ben oui, regarde comme t'étais énervé. Oh non, c'est pas moi! Ben oui, c'est toi. Vous êtes déjà entendu parler? Vous êtes déjà entendu vous dire comme ça, j'aime pas ma voix? Parce que vous savez, ce que je donne comme voix, comme timbre de voix, ce que vous entendez, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Bon. Et parfois, eh bien, lorsque ces hommes se regardaient se pencher sur la cuve, ils voyaient deux choses essentielles. Ils voyaient leur propre misère, leur tâche, le sang. Mais ils voyaient aussi leur propre image. Ce qu'ils avaient fait, peut-être que ça leur rappelait qu'il fallait aller voir son épouse, demander pardon, peut-être aller voir ses enfants. Peut-être régler un problème avec un collègue. Il faut que j'aille lui demander pardon. Vous savez que le pardon, c'est essentiel. Et puis, voyez une deuxième chose. Ils voyaient le ciel d'azur qui nous parle de l'espérance. Dieu est au ciel. Jésus revient chercher son Église. Et puis, le souverain sacrificateur, lorsqu'il voyait ce deuxième rideau, c'était lieu de la prière, de l'intercession, de la lumière. La prière, eh bien, cette fumée, cet encens qui brûlait, symbole de la prière, ce pain qui nous parle encore de Christ. Je suis le pain de vie et ce candélabre, la lumière du monde. Et là, il y avait un endroit solennel. Mais le troisième rideau, qui était un rideau essentiel, les mêmes couleurs, le blanc qui nous parle de l'humanité, sainte de Christ, le bleu qui nous parle de son origine divine, de sa nature divine venant du ciel, l'écarlate de son sacrifice, et le pourpre, sa souveraineté universel. Donc à chaque fois, il y avait ce rappel. Chaque fois, il y avait ce rappel, mais il y avait ces chérubins qui paraissent être les créatures célestes les plus élevées en dignité, ceux qui sont le plus proches de Dieu, où ils sont donc là pour proclamer la suprématie de Christ. Voilà la raison pour laquelle ces chérubins sont représentés. Et ce voile était soutenu par quatre colonnes. Ce n'est pas innocent que ça a été mis par quatre colonnes, et ces quatre colonnes nous parlent encore de quelque chose d'important. Si je vous dis quatre, à quoi pensez-vous? Aux évangiles. Le symbole encore de l'évangile qui annonce la personne de Christ, qui nous parle de sa venue sur terre, qui nous parle bien du plan du salut, qui nous parle de son retour. Les crochets au-dessus du voile pour distinguer les crochets d'or servaient à le soutenir, tandis qu'en bas apparaissaient les socles d'argent qui tenaient donc ces quatre colonnes et l'or et l'argent qui faisaient comme un cadre. Ça faisait comme un cadre pour nous faire rentrer dans le lieu très saint, l'or symbolisant la divinité et puis l'argent symbolisant la rédemption, en un mot Jésus, Fils de Dieu, Rédempteur. Une fois par an, le souverain sacrificateur arrivait dans ce lieu saint pour y pénétrer après, pour passer à une autre étape, le lieu très saint. C'était une fois l'an qu'il passait dans le lieu très saint. Quel moment solennel! Cet endroit était sombre. Il n'y avait rien, si ce n'est ce que vous voyez, l'arche. Nous verrons, Dieu voulant, peut-être la semaine prochaine, le contenu de l'arche. Est-ce que ça représente encore? Mais il est là et le souverain sacrificateur rentre dans cette sainte présence. Je tiens à vous rappeler, mes frères et sœurs, qu'il est seul. Tout seul. Il a fallu qu'il lève le rideau du lieu très saint. Lorsque je suis allé en Roumanie, je me suis aperçu à un moment donné que dans les églises orthodoxes, ce que nous n'avons pas dans les églises catholiques, il y a le tabernacle où ils mettent la coupe avec les hosties, voilà, de mémoire, enfin peu importe. Mais dans les églises orthodoxes, il y a le lieu que l'on pourrait dire le lieu saint, où les gens rentrent, où il y a le prêtre qui fait donc la cérémonie religieuse. Et derrière, on est étonné lorsqu'on regarde l'extérieur, on dit mais à l'intérieur c'est plus petit qu'à l'extérieur, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Le bâtiment paraît beaucoup plus grand de l'extérieur que de l'intérieur. Mais en fait, il y a une cloison. En fait, ces cloisons représentent le lieu très saint derrière, où seul le prêtre peut y rentrer. Mais voyez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas le tout d'avoir des symboles, d'y voir eh bien, des images. Dieu n'a que faire que de représenter que des images. Si c'est pour que ça reste simplement une image sans pénétrer dedans, ça ne sert à rien. Avoir une tête bien remplie, c'est une chose. C'est important. Si on a l'occasion d'avoir une tête bien remplie, c'est bien. Je parle des choses de Dieu, même pour les autres choses d'ailleurs, c'est bien aussi. Mais avoir une tête bien remplie de connaissances de Dieu, de théologie, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on se prive. Combien de frères et de sœurs se privent de la présence de Dieu? Parce que nous pouvons rentrer dans ce lieu saint. Marc 15, 38. Marc 15, 38. Il est écrit, le voile, verset 37. Jésus est crucifié à la croix. Il est écrit, mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Que se passe-t-il après? Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusque en bas. Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un nouveau sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons cette libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Ce n'est plus un simple privilège pour le souverain sacrificateur une fois l'an, mais chaque instant, à tout moment, jour et nuit, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Et combien d'entre nous avons peut-être perdu cette notion en disant « mais bien sûr !» Combien d'entre nous se battent encore peut-être avec des addictions, avec de mauvaises habitudes, se battre contre de la rancœur, se battre contre des choses qui les ont blessés, qui les ont tourmentés et qui les tourmentent encore. Ça ne remet pas en question leur conversion, leur rencontre avec Jésus, mais ils n'ont pas tout compris, se limitant au lieu saint, peut-être même simplement dans le parvis. Rentrer dans le lieu saint, bien plus encore, rentrer dans le lieu très saint pour y rencontrer celui qui est le seul qui vous connaît parfaitement. Le seul qui a la solution à vos problèmes. Le seul qui saura vous dire quoi faire. Le seul qui, peut-être, il vous est arrivé de parler aux uns et aux autres et n'avoir jamais été compris. C'est terrible de parler avec un cœur désespéré à des gens, semble-t-il, compétents ou pas forcément ayant une compétence. Mais des gens en qui nous avons confiance, des gens qu'on a pu observer, des gens que l'on a pu entendre, et se dire, lui, elle, va me comprendre. Et puis d'avoir l'impression qu'il y a un plexiglas entre vous et la personne, et qu'en plus elle a les oreilles un peu fermées, et que vous parliez à cette personne et que vous rendez compte que cette personne, en fait, a l'impression qu'elle ne capte pas ce que vous lui dites, qu'elle ne reçoit pas. Pas parce qu'elle ne veut pas recevoir, mais simplement parce qu'elle est dans l'incapacité de recevoir. Parce que cette personne ne peut pas être à la place de Dieu pour vous comprendre. Et encore moins à votre place. Et puis, il faut dire aussi que parfois, il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Et des gens qui ne savent pas expliquer la raison pour laquelle c'est difficile. Des fois, il y a des gens qui sont troublés. Ils ont tout. Façon de parler. Ils ont de l'argent. Ils ont des connaissances. Ils sont appréciés. Ce sont des gens qui ont une certaine intelligence, qui ont des capacités intellectuelles, et qui pour autant, ce sont des gens qui sont malheureux, terriblement malheureux, et qui à un moment donné n'ont qu'une solution, ne se disent « il n'y a qu'une chose à faire, c'est de me supprimer ». Sauf que quand on a donné son cœur à Dieu un jour, on a peut-être oublié ce qu'on avait dit à Dieu. Parce que vous pensez bien, ça fait tellement longtemps qu'on est passé par les eaux du baptême. Mais ça fait tellement longtemps que je ne suis pas rentré dans le lieu très saint, que je n'ai plus, que j'ai perdu ce désir. Un peu comme ce feu qui s'éteint parce que faute de bois. Vous savez, hier j'ai coupé du bois. J'ai sorti la fondeuse et paf, il claque, paf, il claque, paf. Il y en a un qui me résistait, je prends la hachette et boum. Ah, il y a le stock de bois, c'est pas la peine d'aller vous servir. Hein. Mais le bois, il est prêt. Qui a dit dommage? Je veux pas le savoir. Ah, bah c'est toi? Moi, je dirais pas que c'est... Sylvia, merci de m'avoir aidé, Jacques. Tu auras un bon point. Mais faut pas le dire que c'est Sylvia. Mais voyez-vous, frères et sœurs, tout est prêt. Tout est prêt. Le bois est prêt. Il y en a pour plusieurs semaines. On va mettre le feu dans le poêle. On va y mettre le bois. Mais enfin, tout le monde sait ça. On peut avoir une bonne combustion, on peut avoir mettre les bûches, mais si on n'est pas derrière pour motiver, pour attiser, pour rajouter, ça va s'éteindre. C'est la nature, c'est comme ça. Et si vous ne rentrez pas dans la présence de Dieu, si vous ne demeurez pas dans la présence de Dieu, si vous attendez une fois l'an, ça va s'éteindre. Sauf que Dieu ne veut pas que ça s'éteigne. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il est important de se rappeler, eh bien, de l'autel du sacrifice. Il est important de se rappeler de la cuve des reins. Il est important de se rappeler, eh bien, du lieu saint. Est-ce que vous vous rappelez de vos prières, de votre engagement avec le Seigneur, lorsque vous étiez, c'était le feu, hein? Combien de fois vous avez dit, Seigneur, Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur ceci, Seigneur cela? Et pas parce que vous étiez pris dans l'émotion, vous ne sortiez pas d'un concert de je ne sais qui ou quoi, et que c'était juste émotionnel. Vous le savez que ce n'était pas émotionnel. Enfin, que ce n'était pas suite à un chant ou je ne sais quoi, que vous étiez peut-être simplement dans votre canapé, et que vous avez eu un temps avec le Seigneur, un temps qui était profond, sincère. Vous vous en souvenez de cette prière que vous avez adressée au Seigneur? Il y a combien de temps vous l'avez faite? Il y a combien de temps que ça a perdu de sa fraîcheur? Il faut dire que il y a peut-être eu des impuretés qui se sont greffées à elle. Laissez Dieu les purifier. Demandez au Seigneur de purifier. La description du voile, il était fait de fin lin retors. Le mot lin symbolise la vie de végétation facile et abondante. Et le mot retors signifie que le fil a été retordu, opération nécessaire de la fabrication de tout fil à coudre, lisse et résistant, utilisé pour des travaux de cuir. Lorsque le souverain sacrificateur touchait ce rideau épais, il y avait la vie, la végétation, cette végétation facile, la vie, qui nous parlait de Christ. Le symbole de la vie en Christ. Mais symbolisant aussi, de ce fil rotor, des souffrances de Christ. Il ne venait pas les mains dans les poches en disant, « Bon, voilà, ça fait un an. Ouh là, oui, il était temps. » Il venait avec du sang, versé sur le propitiatoire. Toujours le symbole, toujours l'image de Christ. Et puis, le lin nous parle de la pureté morale de Christ, celui qui était sans tache. Il était artistement travaillé. Il n'était pas question de bâcler le travail. Un film qui dépasse ceci, cela, c'est pas grave, allez, vas-y, hop, à la chaîne. Il n'y avait pas de chaîne. Il n'y en avait qu'un qui était unique, mais artistement travaillé. La vie de Jésus a été artistement travaillée par l'œuvre du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes des arts. Nous sommes des œuvres d'art. Alors, vous voyez, il y a un brave là tout à l'heure, il m'a dit, ma femme me prend la mesure toutes les semaines pour voir si j'ai grossi. Je ne sais plus lequel, mais enfin, ce n'est pas la peine. Ah oui, ça y est, je revois. C'est Christian, mais je ne dirais pas que c'est lui. Hein, Godéric ? Bon, enfin. Mais, bien sûr que quand on se regarde à l'extérieur, on dit, oh, artistement travaillé. Moi, vous m'avez connu avec la barbe plus noire, non ? Les cheveux plus noirs. Moi, par contre, je vous ai connu jeune. Hein. Mais alors, en 7 ans, vous avez vieilli. Hein. Mais il n'est pas question de ça, bien sûr. Il n'est pas question de ça. Il est question de l'intérieur. Il est question de notre être, de ce que Dieu fait. La manière dont le Saint-Esprit s'y prend pour nous parler. Vous avez vu comment le Saint-Esprit est délicat avec nous ? Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, il n'y a pas besoin de nous dire ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a fait. Parce que le Saint-Esprit, il nous parle. Il nous rend sensibles. Et qu'il nous pousse à être sensibles, et il nous pousse à être dociles. Ce n'est pas compliqué, lorsqu'on n'est pas docile, on attriste le Saint-Esprit. Et il n'y a pas besoin du pasteur, il n'y a pas besoin que ma femme, que qui que ce soit vienne me dire, là c'est pas bien. Je le sais au fond de moi-même. Et vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on accepte que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse en nous, alors on n'est plus charnel, on devient de plus en plus spirituel. Trop de chrétiens sont charnels. Alors bien sûr, ça fait partie de notre vie. Là, tout à l'heure, ceux qui vont rester pour le jeûne et prière, peut-être que vous allez avoir l'estomac qui va faire... Chut, tais-toi ! Arrière de moi, la côte de bœuf. Hein ? Peut-être que... Voilà. Ça, c'est la chair. Voilà, on a... Voilà, on en... Mais trop de chrétiens sont dans la chair. La chair, eh bien... de sa façon de réagir, sa façon de faire. Ah, oh, si tu recommences, je t'attrape, je vais te casser en deux, hein, je te garantis. Hein. Un chrétien qui parle comme ça, c'est la chair. Hein. C'est pas spirituel, enfin c'est pas de Dieu plutôt. Hein. Si quelqu'un vous fait une queue de poisson au volant et puis que vous faites... Ça, c'est pas sanctifié. Hein. Voilà. Si au fond de vous-même, vous ruminez, vous avez de l'inversion pour quelqu'un, c'est la chair. Si au fond de vous-même, vous vous vexez pour quelque chose, c'est la chair. Ce qui est important, c'est de que l'œuvre du Saint-Esprit puisse faire son œuvre en nous, non seulement de sanctification. Les mamies, je vous entends jusqu'ici, les deux mamies. D'ici, je vous entends. Ben oui, c'est l'avantage quand on devient sourd, on a l'impression qu'on ne parle pas fort. Moi, je me rends compte aussi, parce que quand je parle, on me dit comme ça, « Mais pourquoi tu parles fort ?» Ben, je dis, « Je ne parle pas fort, je ne m'entends pas. » Mais c'est Gisèle, et puis voilà. Et là aussi, je ne dirai pas les noms. Hein. On les aime, les pieds noirs. Gloire à Dieu. Et puis... La parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35, l'œuvre du Saint-Esprit artistement travaillée. Le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. La déchirure que nous avons vue dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus a rendu l'esprit, cette déchirure, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et là aussi, ça a toute cette signification. Ce n'est pas une déchirure en bas, le haut, qu'est-ce qu'on fait Non. Il y a un symbole. Ça venait du ciel. C'est la main de Dieu. Je répète ce que j'ai dit. D'après la tradition juive, le temple, le voile qui était dans le temple, faisait l'épaisseur de la paume. Donc, c'était indéchirable, on ne pouvait pas le déchirer. Mais il était déchiré du haut en bas. Et ce n'était pas juste une déchirure partielle, c'était une déchirure totale. Le libre accès pour entrer dans la présence de Dieu. Pas un fil resté, Vous savez, des fois, on déchire les choses et puis il y a un fil qui... Pas un fil, vous entendez? Pas un fil. Vous savez que les fils, c'est important. Ça semble être rien comme ça, mais c'est tellement son importance. Vous vous rappelez de ce que Abraham a vécu avec, le roi, j'ai perdu son nom, le roi de Sodome, Gomorre? Lorsque Abraham a été libéré Lot, parce que des rois ont fait un combat contre le roi de Sodome et de Gomorre, ils ont tout embarqué, ils ont fait la razzia. Et dans la razzia, il y avait Lot. Et quand Abraham a su que Lot avait été fait prisonnier, il rassembla environ 300 des plus braves de ses hommes et est allé faire la guerre pour récupérer Lot. Et en récupérant Lot, il a libéré le roi de Sodome et tout ça. Et le roi de Sodome, Gomorre, dit comme ça en quelques mots, « Prends tout ! Prends tout ! Mais donne-moi les hommes. » Et Abraham va dire en quelques mots, alors, je vais vous le dire à ma manière, écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Je vais te dire quelque chose. T'écoutes bien, hein? Je ne prendrai de toi rien. Ce qui s'appelle rien. Même pas un fil. De peur que tu dises, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Faites attention au fil qui semble être rien. Un fil plus un fil, plus encore un fil. En fait, les fils nous parlent de compromission. Un petit péché, oh, ça va, on n'est pas sous la loi des Mèdes et des Perses. Ouais. Un petit regard. Tiens, les hommes qui arrivent à la cinquantaine. Oui, il y en a qui m'a fait ça pour dire, oui, j'en ai 4 ans de plus. Oui, bon, d'accord. Pour voir si nous sommes toujours séduisants. Ça, c'est la chair. Hein. Et si je voyais que j'avais toujours un certain regard quant à la gente féminine. Vous croyez que c'est chrétien de faire ça? De voir, parce qu'on commence à dire, j'ai 50 ans, bon, un peu bedonnant, un peu ceci, un peu cela. Et puis, oh, ça fait plus de 20 ans que je suis marié avec ma femme. Ma femme, il y a longtemps qu'elle me dit, elle ne me dit pas, tu es le plus beau, tu es le plus charmant. C'est... Il y a longtemps qu'elle ne me le dit plus, puisqu'elle me prend en mesure pour voir si j'ai pris toutes les semaines le lundi. Mais peut-être que j'aimerais me convaincre que je suis toujours séduisant. Mais ça s'arrêtera là, frère. J'irai pas plus loin. Oh non, quand même, je suis fidèle. Jouer à ça, c'est prendre un fil. Vous tomberez toujours sur la petite secrétaire. « Oh, j'ai perdu mon père, je suis tellement triste. » Oui, ben elle a le droit de perdre son père, d'être triste. Ben viens, on va parler. Deuxième fil, troisième fil, quatrième fil, cinquième fil. « Samson, dis-moi d'où vient ta force ?» Si on me coupe mes cheveux, je perdrai ma force. Samson, les Philistins sont sur toi. Ils pensaient qu'ils s'en tireraient comme les autres fois, mais ils ne savaient pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Combien d'hommes, mais c'est valable pour les hommes, mais c'est valable pour les dames. Internet, les sites de rencontres et tout ce qui va bien avec. Mes frères et sœurs, un fil, deux fils, trois fils, quatre fils, ces fils vous perdront. Lorsque le temple, le voile s'est déchiré, pas un seul fil, refusez les fils dans votre vie. Et combien même vous pourriez penser, là maintenant, à l'instant, en disant, il va un peu trop fort, parce que quand même, on va pas, ah ça va, on peut, hein, un fil, c'est pas, oui. Sauf que les fils, ça se sent pas. Vous pouvez avoir un fil autour du doigt, vous n'allez pas le sentir, le fil. C'est comme les moustiques, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est en train de me piquer, je ne m'en rends pas compte. Le fil, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais à force de mettre du fil, vous en rendrez vite compte qu'à un moment donné, vous n'aurez plus la liberté. Abraham a refusé qu'on vienne vous lier pour vous empêcher de rentrer dans le lieu très saint. Par des simples compromis, par des simples paroles, par simplement de l'amertume, de la rancœur. Il y a tellement de choses qui peuvent nous blesser. Des proches qui ont pu mal parler de nous dire les choses. Moi, un jour, un proche, m'insulter. Alors ça, j'en ai les bras qui m'en sont tombés. Toi, tu m'insultes ? Mais un gros mot, hein ? C'était un gros mot. C'était pas « Oh, flûte, je ne veux plus te voir !» C'était un gros mot. Tu me dis ça, moi ? Ah, je suis pas né de la dernière pluie, hein, je ne sais pas. Mais des personnes, ça vous fera rien. Qu'il y en a d'autres, ça vous fera... Tu m'as dit... À moi ? Et parfois, une parole, un comportement fera que ça pourra vous lier. Ne vous laissez pas ficeler. Ne vous empêchez pas de rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Venez avec votre peine. Venez avec vos fatigues, vos lassitudes. Je tiens à rappeler, ce n'est pas écrit, bien sûr, mais, et je termine, mais lorsque le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, je ne suis pas convaincu que le sacrificateur qui venait comme il venait une fois par an, il venait en disant « Je suis le même homme que l'an dernier. Aucun défaut, aucun problème. Oh, je pète, j'ai la forme. » Vous croyez que ce souverain sacrificateur, il n'avait pas ses propres problèmes ? Vous croyez que le souverain sacrificateur, Dieu répondait à toutes ses prières, « Tu m'as prié, je te réponds. » Paf, tout de suite, instantanément. Il y a combien de fois vous avez attendu pour le résultat d'une prière ? Dieu ne répond pas toujours comme on l'aimerait, parce qu'il y a le temps de Dieu. Vous croyez que cet homme, il arrivait comme ça, tranquillement ? Un an, mais alors moi, voilà, tranquille. Il venait avec ses propres problèmes. Peut-être que parfois, il venait avec ses propres larmes. Peut-être qu'il avait perdu un être cher dans l'année. Peut-être qu'il était désespéré quand il voyait son fils ou sa fille, peut-être, mal se comporter. Ce n'est pas parce qu'ils étaient dans le peuple de Dieu que... C'était, voilà, hein. On connaît les Hébreux. Les Hébreux, c'est l'Église. Hein. Combien de fois il y en avait qui râlaient, et souvent un sacrificateur disait, c'est pas possible. Vous croyez franchement que c'est souvent un sacrificateur ? Mais il sortait différemment de ce qu'il était rentré. Parce qu'il avait été dans le lieu très saint. Ressourcé, régénéré, renouvelé. Je suis sûr, frères et sœurs, que si vous acceptez de ne pas vous limiter à rester dans le parvis, même si vous connaissez le sacrifice de Christ, même si vous savez, vous demandez pardon au Seigneur, bien sûr, mais rentrez un peu plus loin. Ne restez pas dans le parvis, rentrez dans le lieu saint. Il y en a qui sont dans le lieu saint, mais qui ne sont pas encore rentrés dans le lieu très saint, ou qui en sont sortis. Ne restez pas dans le lieu saint. Le pain, Jésus, vous pouvez dire Jésus, au nom de Jésus ! Oui, mais ce n'est pas quelque chose de magique, hein. Le nom de Jésus, ce n'est pas magique, c'est l'autorité de Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est la personne de Jésus qui est ressuscité. Même si vous connaissez toutes ces choses, même si vous dites, je lis la Bible tous les jours, je prie au nom de Jésus tous les jours, je prie l'encens, le candélabre, j'ai la lumière de Christ dans ma vie. Mais Dieu veut vous faire rentrer dans son lieu très saint, dans l'intimité profonde. Dieu veut se révéler pleinement dans votre cœur, pas simplement... Excusez-moi, je vais vous le dire ainsi. Je crois que nous sommes trop légers. Trop légers. Même si nous passons, même si toute l'Église restait pour le jeûne et prière. Non, Seigneur, voilà, je te prie pour Pierre, Paul, Jacques, André, Barthélemy, Simon. Oui. Ce qui fera que nous allons rentrer. C'est de rentrer dans le lieu très saint en disant « Seigneur, parle à mon cœur », mais d'être capable de l'entendre nous parler. Il y a ça qui ne va plus. C'est pour ça que tu n'as pas cette intimité avec moi. Ça, c'est à régler. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Trop de gens s'apitoient sur leur sort. Ouvrez les yeux, frères et sœurs. Allez en oncologie, en pédiatrie, allez voir tous ces gamins qui sont chauves, c'est la mode de l'année. Hein. Allez voir tous ces gosses qui sont chauves. Allez voir tous ces parents qui vont voir ces gosses, qui viennent avec, ils peuvent même plus acheter un gâteau parce que le gamin ne peut pas manger de gâteau. Ils peuvent même pas acheter des bonbons parce qu'ils ne peuvent pas manger de bonbons. Mais ils viennent et ils se montrent forts. Ça va, mon chéri ? Ah. Vous savez, toujours le petit mot habituel, ça va. Ben non, ça va pas, il est en oncologie, alors ça va pas, forcément. Mais commencez pas à quoi dire. Ça va, mon chéri, voilà. et que ses parents, lorsqu'ils sortent de la chambre avec les larmes dans les yeux, ouvrez les yeux, écoutez, de ne plus s'apitoyer sur son sort. Un tel ne m'a pas dit bonjour, alors, paf, je ne vais plus à l'église. C'est une honte. Je vous le dis clairement, c'est une honte. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Des gens pour le nom de Jésus. Il leur suffirait simplement de dire, « Ah mais moi Jésus, oh non, non, je ne connais plus. Maintenant que je vous connais, je me tourne vers vous. » Ces hommes, ces femmes meurent. Vous entendez? Ils meurent. Lapidés. On profite, on les bat à coups de bâton, je vous assure. Il y a des vidéos que je reçois, je ne peux pas vous montrer. Vous seriez choqués. Une femme qui a rendu témoignage a été lapidée, on l'a mis dans les pneus, on l'a brûlé le pneu. Pour bien sûr qu'elle soit morte, hein, bien sûr. Il ne faut pas qu'elle continue à parler de l'Évangile. L'Évangile qui sauve, l'Évangile qui pardonne, l'Évangile qui renouvelle, l'Évangile qui affranchit, qui délivre. Je vous le dis clairement, frères et sœurs. Nous devrions avoir honte. Moi le premier. Ah, je me suis tordu un ongle. Je ne vais plus à l'église. On m'a fait un reproche pour ça. Mais on sait faire la part des choses entre un reproche et puis quelqu'un qui ne vous aime pas. Ben Lucien, pas Lucien non, Gustave. Gustave, t'es venu faire le ménage, mais t'as vu, t'as ça. Ah, ben on m'a fait la remarque parce que j'ai laissé des balayures là. Mais c'est pas méchant, on vous fait juste marquer que vous avez des balayures là. Et alors, qu'est-ce que... Vous savez ce que c'est? C'est simplement l'orgueil. Oui, relevons la tête, frères et sœurs. Jésus revient bientôt, très bientôt. Ces hommes et ces femmes qui rendent témoignage, qui souffrent. Il y en a combien parmi nous ici, là, qui sont rejetés par leur propre famille parce qu'ils viennent à l'Évangile? Ah, t'as encore été dans ta secte! Je te préviens, tu vas dans ton église, mais je veux que le repas soit fait à l'heure. Hein. T'as intérêt d'être là. Parce que sinon, tu vas te prendre une rouste. Et ces femmes, elles viennent, elles disent rien. Personne ne sait quoi. Personne ne sait ce qu'elles vivent. Ces hommes qui viennent, on ne sait même pas ce qu'ils vivent. Oui, mes frères et sœurs, levons les yeux. Rentrons dans ce lieu très saint. Mais je vous avertis, si nous rentrons dans ce lieu très saint, il faudra s'attendre à vivre des choses difficiles. Parce que le seul but de l'adversaire, c'est de nous descendre. Nous sommes écrits en rouge dans son carnet. Tous ceux qui passent dans le lieu très saint sont vus, sont examinés. Et la moindre occasion, bah, ça tombe. Ça tombe à cause de quoi? À travers quoi? La maladie d'un petit. Ah, t'as vu? Tu t'approches de Dieu, t'as vu ton petit tomber malade? Oh. Et tu dis que Dieu t'aime? Oh. C'est à travers votre propre santé, à travers un licenciement, à travers quelqu'un qui veut vous faire une remarque, avec madame et monsieur. Oh, tu m'énerves, hein, c'est pas possible, hein? Juste avant le culte, monsieur et madame qui se prennent la tête. Ah ben, ne me regardez pas, je ne me suis pas pris la tête avec ma femme. Hein. Ma femme est au travail. Non, mais vous me regardez en disant, ah lui aussi ça arrive. Ah bon, parce que vous croyez quoi? Faisons attention, frères et sœurs. Je ne veux pas me laisser lier par des fils. Je veux rentrer dans le lieu très saint.